Alors, on commence cette nuit de la lecture avec toi, Thomas.
Donc, bonsoir.
Bonsoir. T'animes l'émission La Librairie des étudiants,
oui,
sur Radio Campus.
C'est vrai.
Et donc là, tu vas commencer par nous lire un petit extrait de livre. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est comme livre ?
Oui, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nuit de la lecture. Alors, évidemment, je me suis replongé dans ma bibliothèque pour que cette belle soirée de lecture... Je vais aussi écouter avec beaucoup d'attention les prochaines personnes qui vont me suivre, parce que je suis le premier, mais il y en a quand même d'autres qui vont le suivre après. Un classique, un contemporain, et pour finir aussi un peu de poésie, entre patrimoine et forcément héritage.
C'est donc un vrai saut dans le temps que tu nous proposes ce soir, Thomas.
Un premier classique, inévitablement, j'ai eu envie de parler de celle qui renaît de ses cendres. On en a beaucoup parlé, de Notre-Dame de Paris. Le chantier a commencé en 1163. Et si on prend en compte la fin de la reconstruction complète de la cathédrale, le chantier va se terminer dans les prochains mois. Et donc je crois que nous avons tous été frappés par cet incendie, par ces images qui nous sont restées en mémoire, qui a presque détruit un monument important de notre patrimoine, je pense. J'ai eu le plaisir de visiter Notre-Dame depuis qu'elle a réouvert au public et je dois vous avouer quand même un peu mon émotion en pensant aux centaines d'artisans parce que ce sont ces hommes et ces femmes qui ont permis la reconstruction de ce bâtiment. Et donc voilà, je pense que c'est aussi important de saluer ces hommes et ces femmes qui se sont dévoués pour ce patrimoine.
Donc on peut parler de notre patrimoine aujourd'hui, mais le matrimoine dans tout ça...
Alors, matrimoine, il va venir, parce que le premier extrait, bah, on pourrait même dire matrimoine pour elle, Notre-Dame, c'est, on va dire que c'est une fille, on va le dire. Moi, pour ça, j'aimerais donc vous lire un extrait de Notre-Dame de Victor Hugo, un texte paru en 1831. Donc là, c'est au chapitre 3, au livre 3, chapitre 1 de Notre-Dame, à la page 189-190.
Et donc, quelle est l'histoire de ce livre ? Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ?
Alors, la véritable histoire... En tout cas, celle que l'on retient, c'est l'histoire d'amour qu'il y a entre Esmeralda et Quasimodo, le bossu de Notre-Dame. Mais en réalité, le véritable personnage de Notre-Dame de Paris, de ce roman, c'est bien la cathédrale. Et donc là, le passage que je m'apprête à vous lire, c'est la fameuse description que fait Victor Hugo de Notre-Dame de Paris. Donc pas du tout la cathédrale qu'on peut visiter aujourd'hui, parce qu'elle a été restaurée, elle est extrêmement claire comme elle a été construite à l'époque. Mais bien la cathédrale un peu crasseuse, noire, sombre, qu'a découvert Victor Hugo lorsqu'il y est allé la première fois et les fois suivantes. Et donc, c'est à travers son regard qu'on va pouvoir lire ce passage. Sans doute, c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris. Mais si belle qu'elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument, sans respect pour Charlemagne qui en avait posé la première pierre, pour Philippe Auguste qui en avait posé la dernière. Sur la face de cette vieille reine de nos cathédrales, à côté d'une ride, on trouve toujours une cicatrice. Tempus edax homo edatior. Et que je traduirais volontiers ainsi, le temps est aveugle, l'homme est stupide. Si nous avions le loisir d'examiner une à une, avec le lecteur, les diverses traces de destruction imprimées à l'antique église, la part du temps serait la moindre, la pire, celle des hommes, surtout des hommes de l'art. Il faut bien que je dise des hommes de l'art, puisqu'il y a eu des individus qui ont pris la qualité d'architecte dans les deux derniers siècles. Et d'abord, pour ne citer que quelques exemples, Capitaux, il est, à coup sûr, peu de belles pages architecturales que cette façade, où successivement et à la fois, les trois portails creusés en ogive, le cordon brodé et dentelé, des 28 niches royales, l'immense rosace centrale flanquée de ses deux fenêtres latérales, comme le prêtre du diacre et du sous-diacre, la haute et frêle galerie d'arcades à trèfle qui porte une lourde plateforme sur ses fines colonnettes, enfin, les deux noires et massives tours avec leur auvent d'ardoise, partie harmonieuse d'un tout magnifique, superposé en cinq étages gigantesques, se développant à l'œil, en foule et sans trouble, avec leurs innombrables détails de statuaire, de sculpture et de ciselure, ralliés puissamment à la tranquille grandeur de l'ensemble. Vaste symphonie en pierre, pour ainsi dire, œuvre colossale d'un homme et d'un peuple, tout ensemble, une et complexe, comme les Iliades et les Romanceros dont elle est sœur. Produit prodigieux de la cotisation de toutes les forces d'une époque, où sur chaque pierre, on voit saillir en cent façons la fantaisie de l'ouvrier discipliné par le génie de l'artiste, sorte de création humaine, en un mot, puissante et féconde comme la création divine dont elle semble avoir dérobé la double caractère, variété, éternité. Et ce que nous disons ici de la façade, il faut le dire de l'église entière. Et ce que nous disons de l'église cathédrale de Paris, il faut le dire de toutes les églises de la chrétienté au Moyen-Âge. Tout se tient dans cet art venu de lui-même, logique et bien proportionné. Mesurer l'orteil du pied, c'est mesurer le géant.
Parfait, merci Thomas pour ce voyage dans le temps avec ce classique de Victor Hugo.
Notre-Dame de Paris.
Notre-Dame de Paris.
À redécouvrir en poche et à lire évidemment. Il y a, là c'est uniquement l'introduction on va dire de Notre-Dame pour découvrir cette fameuse façade. Mais il y a aussi encore de très belles pages sur l'intérieur, sur l'extérieur qu'il faut lire, qu'il faut découvrir pour les amateurs de littérature classique.
Et donc je vois que tu tiens un autre livre dans tes mains. Donc est-ce que tu peux un petit peu nous dire ce que c'est, pourquoi tu l'as choisi?
Là on va vraiment rentrer dans le côté matrimoine et héritage. C'est le premier roman d'une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, qui s'appelle Marion Fayol. Elle est aussi illustratrice, très connue, elle a fait de nombreux dessins, notamment pour des journaux étrangers et de la presse nationale également. Elle a publié son premier roman, Du même bois, l'année dernière, en janvier 2024, et elle raconte comment une famille dans une ferme passe d'une génération en génération cette fameuse ferme. Donc on est complètement dans la transmission, dans l'héritage, mais on arrive aussi à ce moment, à ce point de rupture où la prochaine génération va peut-être quitter la ferme pour aller ailleurs, peut-être aller à la ville. Donc ce roman est paru aux éditions Gallimard, mais pour celles et ceux qui ont de plus petits moyens, il va aussi paraître aux éditions Poche en mars prochain. Et donc j'aimerais vous lire un passage qui, à vrai dire, vers la fin du roman, à la page 112-113, et c'est à mes yeux l'un des plus beaux passages de ce roman. Le petit tout installe des barrières tout autour de sa mère. C'est pour pas que je parte? À moins que ce soit pour retenir mes bêtes, c'est ça? Avec sa robe à fleurs, on dirait la prairie. Les petites mains cherchent un endroit plat, terrasse avec leurs paumes vers son nombril, juste avant le dévers de ses côtes, juste là. Ne bouge pas, surtout ne bouge pas. Je reviens. Quelques barres en bois, un triangle pour le toit. Tu reconnais? C'est la ferme de la mémé. Ses seins dessinent des sucs. Voici qu'ils reviennent, les bras chargés d'animaux. Des vaches immenses avec des taches. D'autres plus petites. Ça fera comme s'ils étaient au loin. Il en installe sur ses épaules, dans ses vallons, dans ses drapés fleuris. Elle aimerait se lever pour voir si ça rentre bien. Mais quand on est le paysage, on ne peut ni bouger, ni se regarder de loin. Alors, elle reste allongée sur le sol. Attend que les vaches aient fini de brouter sa longue robe, que son petit tout ait réussi à rassembler toutes ses bêtes. Il prend la voix du pépé, les ailes en patois. Ne bouge pas, tu es l'herbe, tu es le sol, souffle un peu pour faire le vent. Quoi? Le paysage me parle. Non, ce n'est pas l'heure du bain, je dois encore passer le tracteur. L'enfant fait vibrer ses lèvres et roule sur les chevaux de sa mère. Les entortilles fabriquent des bottes de foin. Les petits doigts pincent le tissu comme pour y cueillir des fleurs. Voilà, ça fera plaisir à mon papy. On va dire que son arbre est ici, et il dépose délicatement un bouquet imaginaire sur le sentier que délimite sa clavicule. Non, pas le bain. Je veux aussi en ramasser pour le caveau du cimetière. Les doigts potelés sélectionnent les myosotis, les rassemblent et les posent là, à l'orée de sa taille. Comme si toute la famille avait été enterrée dans sa chair, que le pépé, le frère du pépé, ceux d'avant encore dormaient quelque part dans les sillons de sa peau. Le gamin se lève pour emmener le petit au bain. C'est la crise. Elle a renversé son histoire, a laissé s'échapper toutes les bêtes.
Merci Thomas pour cette belle lecture qui a une transmission vraiment intergénérationnelle qui illustre ça. Et donc, il te reste encore un dernier texte, Jamais 203.
C'est ce qu'on dit, à ce qu'il paraît. Jamais 203, là, c'est de la poésie. Alors, ce n'est pas un poème complet que je vais vous lire. C'est un poème, j'ai extrait quelques 2, 3, 4, 1, un extrait d'un poème d'Aragon. Aragon qui est devenu, qui est toujours d'ailleurs, un des immenses poètes que comporte notre littérature et qui fait toujours autant transmission et patrimoine. Ce sont des extraits du poème qui s'appelle « Que la vie en vaut la peine ». Et donc je veux penser ce soir à deux personnes précisément. La première personne, c'est ma grand-mère, pour qui j'ai lu ce poème. Et la deuxième personne, c'est Jean d'Ormesson, ancien académicien, qui avait un amour inconditionnel des mots, et avec qui, en l'écoutant, à force de l'écouter, j'ai appris presque par cœur ce poème. Mais je dois l'avouer ce soir à ceux qui nous écoutent, j'ai le livre entre les mains, parce que ma mémoire me fait encore un peu des tours. Donc ce poème s'intitule « Que la vie en vaut la peine » et il est extrait du recueil « Les yeux et la mémoire ». C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie. La nuit immense et noire aux déchirures blondes. Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l'aube première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout, si ce n'est le passant. Malgré tout, je vous dis que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci, je dirais malgré tout que cette vie fut belle.
Merci de finir sur ce beau poème. Merci Thomas.
De Louis Aragon.
Voilà. Et bah merci d'avoir soigneusement sélectionné tous ces textes et bah tu vas passer le flambeau à la prochaine personne.
À la prochaine personne. Merci à toi et belle soirée à toutes celles et ceux qui nous écoutent.